Donc, ce n'est pas une surprise, on va poursuivre sur cette étude d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Et on va parler de la réconciliation en Christ et de toute son œuvre qu'il accomplit. Alors, peut-être vous vous souvenez de ma dernière prédication. Donc, c'était aussi Éphésiens 2, mais cette fois, c'était les versets précédents, donc les versets 1 à 10. Et c'est vrai que ce livre de l'Éphésiens est particulièrement riche, particulièrement fort, fort pour nous. Fort pour nous. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite bête. C'est une araignée qui vit sous l'eau. Ça s'appelle l'argyronette. Elle est pleine de petits poils et puis elle se fait une petite bulle pour respirer sous l'eau. Et de temps en temps, elle ressort pour reprendre l'oxygène. Si vous voulez en entendre un petit peu plus, écoutez le message que j'avais donné, non pas sur l'argyronette, mais sur Éphésiens 2, 1 à 10, où j'en parlais un petit peu plus. Donc, elle se sert de cette petite maison pour regonfler de l'air, pour regonfler sa petite maison sous-marine dans laquelle elle respire, elle chasse, elle se reproduit, elle élève toute sa progéniture, et on est obligé aussi, nous, de vivre, de travailler, d'élever... parfois des enfants, si on en a, dans un monde dont l'atmosphère morale est souvent irrespirable, est souvent compliquée, est souvent complexe, puisqu'il est conduit par Satan, qui est appelé le prince de la puissance de l'air. Et ça, on trouve dans Éphésiens 2, 2. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut respirer déjà l'air du ciel. Dans Éphésiens 2, verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Déjà, par cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, eh bien, on est déjà, et on l'avait vu lors de mon précédent message, eh bien, on a déjà cette possibilité de respirer l'air du ciel. Même si on est encore pour quelque temps sur cette terre, on peut respirer encore l'air du ciel à chaque jour qui passe. Et je vous avais parlé aussi de l'histoire des ossements desséchés qu'on trouve dans Ézéchiel 37, les versets 1 à 14, qui nous rappellent eh bien, qu'on était morts dans nos péchés et que Dieu nous a rendus à la vie en Christ. Alors aujourd'hui, donc, on va plonger nos regards dans ce passage biblique d'Éphésiens 2, 11 à 22. Éphésiens 2, 11 à 22. « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qu'ils sont dans la chair par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui était des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » On reviendra plus en détail sur ce texte. Ce texte, tellement puissant, nous parle de la réconciliation en Christ, la manière dont il a brisé les barrières qui nous séparent et qu'il a établi aussi l'unité pour son peuple, parmi son peuple. À une époque où le monde est marqué par des divisions, des conflits, on a besoin de comprendre ce message de réconciliation. C'est tellement important. Sans parler de guerre, on peut voir ce qui se passe en ce moment dans des cités en France ou ailleurs. J'ai de plus en plus frappé de voir combien les gens transmettent leur mécontentement. combien souvent les gens sont agressifs, même parfois dans les églises. Et ça me frappe. Examinons ensemble comment ce passage peut nous guider aussi dans la construction de l'unité dans nos vies et dans nos communautés. Je crois vraiment qu'en tant que fils et filles du Seigneur, on a aussi une attitude, un cœur, quelque chose à transmettre de différent de ce monde qui est appelé à revendiquer, à crier, à manifester, manifestant pour le royaume de Dieu, pour Jésus. Et on voit dans ce texte, les versets 11 et 12, la réalité de la séparation. Souvenez-vous donc de ceci. Souvenez-vous de ceci. Autrefois, vous. Et j'aime bien ce « autrefois ». Ce n'est pas aujourd'hui. C'est « autrefois, vous étiez ». Vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qu'ils sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Et dans ces versets 11 et 12, l'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens leur passé de séparation avec Dieu et leur situation de non-citoyens d'Israël. Cependant, il ne se limite pas à cette situation spécifique, mais il élargit la portée de la séparation à toute l'humanité. Avant de rencontrer Christ, on était tous dans un état de séparation spirituelle. Et là, c'est marqué « avant ». Avant, on était séparés. Et si maintenant, eh bien, on n'est plus dans cet avant, mais dans cet après, il y a des choses qui, manifestement, doivent être visibles et différentes. Et cette réalité de la séparation nous rappelle, eh bien, qu'on est tous touchés par le péché et qu'on a besoin de la réconciliation. On a besoin d'être réconciliés. Le péché nous avait séparés de Dieu, de sa grâce, et ça s'est reflété dans notre relation avec les autres. On était étrangers les uns pour les autres, éloignés par nos différences culturelles, ethniques, religieuses. Mais ça, c'est avant. Et souvenez-vous de ce avant, parce que j'espère qu'on vit dans le après. Et si on vit toujours dans l'avant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, au verset 13 à 18, Paul explique que la grâce de Jésus-Christ, par cette grâce de Jésus-Christ, eh bien, on est devenu proche de Dieu. Et on voit la puissance de la réconciliation en Christ. Mais maintenant, avant vous étiez ça, mais maintenant, Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous êtes proches, vous étiez loin, maintenant vous êtes proches. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Et ce n'est pas juste entre Dieu et nous. Autrement, il y a un problème. Écoutez, ou dites avec moi, connaissez hein, dans les églises, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et oui, ce n'est pas juste entre Dieu et nous, mais c'est aussi entre les hommes et les hommes, entre les humains et les humains. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est écrit, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. La dernière fois, au verset 6, on avait découvert déjà eh bien, qu'on peut être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si on peut être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est qu'on est pardonné, justifié. Et la Bible nous dit eh bien, que si on est pardonné, justifié, eh bien, ça implique aussi qu'on pardonne aux autres. Autrefois éloigné à cause du péché, eh bien on a été rapproché par le sang de Christ. Et en sa personne, Jésus a aboli le mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, ainsi que toutes les divisions, l'animosité qui existait entre les différentes cultures, les différentes races, les différentes générations, etc., etc. Et c'est beau de voir toutes ces générations représentées au milieu de nous, toutes ces cultures représentées au milieu de nous, c'est une richesse. C'est une richesse parce qu'on est dans un monde qui veut tout cloisonner. Tu places les jeunes là, tu places le Moyen-Âge là, tu places le... les Suisses, tu les mets là, les Français, tu les mets là, les... Non. Il y a ces murailles par notre nouvelle naissance qui tombent finalement. Jésus a annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, non pas en les rejetant, mais en les accomplissant parfaitement. Et par sa mort sur la croix, eh bien, il a créé un seul homme nouveau, une nouvelle humanité où la paix, la réconciliation sont désormais possibles. Et en Christ, eh bien, on est réconcilié avec Dieu et réunis aussi les uns avec les autres. Et maintenant, du fait de la réconciliation eh bien, en Christ, eh bien, on arrive à cette magnifique proclamation de la paix. Et versets 15 à 18, « Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. » Et ça s'applique à nous aussi. L'inimitié, le contraire de l'amitié ou à... Hein? Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les uns les autres, hein, pas juste moi. Et Paul souligne que Jésus est venu annoncer la paix non seulement à ceux qui étaient loin, les non-juifs, mais aussi à ceux qui étaient proches, les juifs. Et par sa mort sur la croix, Jésus a rendu possible la réconciliation avec Dieu pour tous en formant un seul corps uni. Et en tant que croyant, eh bien, on a maintenant un accès direct auprès du Père grâce à Jésus. C'est juste magnifique. Alors par conséquent, oublions jamais que la réconciliation en Christ, c'est la source de notre unité et de notre paix. Et par son sacrifice sur la croix, Jésus a brisé les barrières qui nous séparaient et il a créé un nouveau peuple réconcilié avec Dieu. Et en intégrant cette réalité, eh bien, on est appelé à vivre dans l'unité, à transcender les divisions et à rechercher la paix avec nos frères et sœurs en Christ. Que cette vérité nous encourage à construire des relations fondées sur l'amour, sur la grâce, sur le pardon et qui reflètent la réconciliation, l'unité que Christ nous a offerte. On puisse être des porteurs de paix, des agents de réconciliation dans ce monde qui a besoin d'amour du Christ. Si je suis un râleur juste comme le monde, qu'est-ce que je peux apporter au monde ? J'apporte quoi ? Rien ! Rien ! Et finalement, on arrive à cet appel de la construction de l'unité, c'est les versets 19 à 22. Ça se passe par la compréhension, eh bien, qu'on appartient à la famille de Dieu. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. On n'est plus des étrangers. Paul souligne que les croyants ne sont plus des étrangers ou des gens de passage, mais ils sont devenus concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. En Christ, on est accueillis dans la communauté des croyants, unis par notre foi en lui. On appartient à une famille spirituelle qui transcende aussi toutes les divisions terrestres. Oui, on est appelé à construire l'unité avec la conscience d'appartenir à un corps. Un corps, et si on ne fait pas partie d'un corps, eh bien, il nous manque quelque chose. Recherchons eh bien, cette appartenance aussi. Et c'est pourquoi Paul continue au verset 20 en décrivant le fondement sur lequel repose aussi la famille spirituelle. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Édifié. Édifié. Pour faire un édifice, il faut plusieurs pierres. Hein. Même si vous ne vous appelez pas Pierre, il faut plusieurs briques. Vous pouvez mettre votre prénom. Pour faire cet édifice, il y a besoin de vous, tout simplement. Et on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ lui-même en tant que pierre angulaire. Et les enseignements des apôtres, des prophètes, qui sont écrits dans les Écritures, nous guident, nous orientent dans notre relation avec Dieu et les uns les autres. Jésus est la pierre angulaire. Il soutient tout l'édifice. Alors, un corps solidement établi en Christ qui forme un temple saint dans le Seigneur, eh bien, c'est ce qu'on trouve au verset 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Ensemble. Ensemble. On a besoin les uns des autres. Ensemble. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, qu'on soit ensemble, qu'on fasse partie de la famille, pas des pierres détachées, pas des juste en marge, mais bien intégrées avec ce ciment du Saint-Esprit. Et Paul utilise une image puissante pour décrire l'unité des croyants en Christ. Ensemble, nous formons un temple saint pour le Seigneur, un temple. En lui, toutes les parties de cet édifice bien coordonnées s'élèvent harmonieusement. On est édifié ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu réside en nous et collectivement, et on est ce lieu où la présence de Dieu habite, peut se développer, peut grandir. Et ces versets d'Éphésiens 2, 19 à 22 bien soulignent aussi l'importance de notre appartenance à la famille de Dieu, l'unité qui est possible en Christ. Pour autant qu'on vive dans cette unité, qu'on choisisse de vivre avec les valeurs du royaume telles que décrites dans ce texte, mais aussi dans cette prière du Notre Père telle que lue tout à l'heure ou récitée ou citée tout à l'heure ou citée dans toutes les églises de la planète. En tant que croyant, on n'est plus des étrangers, mais on est intégré dans la communauté des saints liés par notre foi en Jésus-Christ. On est construit sur le fondement solide des enseignements des apôtres et des prophètes avec Jésus comme pierre angulaire. Ensemble, on forme un temple à saint où la présence de Dieu réside. Et on a ce texte d'un Pierre 1, 14 à 16 qui nous dit « Enfant, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et si on est édifié ensemble, si on est édifié ensemble pour former ce temple, eh bien, il y a aussi cette présence de Dieu, cette conscience, eh bien, qu'on est appelé aussi à être saint, à être sanctifié, à être purifié, à être transformé, à être mis à part. Saint, ça veut dire être mis à part, être différent. Pas être bête, mais à être différent de ce monde qui est hargneux, qui est revendicateur, qui est colérique, qui est revanchard, à être différent. Que cette réalité nous inspire aussi à cultiver des relations profondes et aimantes au sein de la famille de Dieu, à nous appuyer sur la parole de Dieu, notre guide à rechercher l'unité en Christ. Qu'on puisse être une habitation de Dieu en esprit, rayonnant de l'amour et de la présence de Dieu dans ce monde qui nous entoure. Alors oui, il y a cet appel à cette réconciliation et à l'unité qui est au cœur de l'Évangile. La réalité de la séparation, elle est là. Elle est là, ce texte ne le cache pas. Souvenez-vous donc de ceci, autrefois, vous étiez. Autrefois, oui, ne nous voyons pas la face. Il y a cette séparation. De par notre nature, notre rejet de Dieu, on est séparé. De par notre nature, le vieil homme, on est séparé de Dieu. Mais en Christ, on est réconcilié. En Christ est manifestée la puissance de la réconciliation. On a été réconcilié avec Dieu et les uns avec les autres. On ne peut pas être juste réconcilié avec Dieu sans un jour, ça peut prendre du temps, passer par ce processus aussi de réconciliation avec les autres, ou de lâcher prise. On est appelé à briser les barrières qui nous séparent, à tendre la main à ceux qui sont différents de nous, à bâtir des communautés d'amour et de réconciliation. À prendre à cœur ce message, ce passage d'Éphésiens, et à le mettre en pratique dans nos vies. Ce matin, on a pris le temps de s'arrêter sur ce texte, de le lire, de le méditer, mais vous pouvez faire ça avec tous les textes de la parole de Dieu. pouvez vous arrêter, le lire, le découper, le décortiquer, comme je viens de le faire ce matin. Mais le plus fort, c'est de mettre en pratique. C'est de mettre en pratique. Et finalement, recevons cet appel à la construction de l'unité, mais non seulement l'entendre, mais le vivre. Le vivre. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre comme des concitoyens des saints, membres de sa famille, édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Qu'on soit des témoins de réconciliation. Vous imaginez si tous les chrétiens témoignent autour d'eux sur leur place de travail, qui ne sont pas à critiquer le patron comme les autres employés, qui ne sont pas à critiquer la collègue ou le collègue comme les autres, qui ne sont pas à critiquer leurs employés s'ils sont patrons, mais qui sont à véhiculer d'autres valeurs. D'autres valeurs. Qu'on soit des bâtisseurs de ponts, engagés à bâtir des communautés qui reflètent d'autres valeurs. Que l'Esprit Saint nous guide, nous fortifie dans cette démarche en nous rappelant constamment qui on est. Qui vous êtes? Qui êtes-vous en Christ? Juste quelqu'un qui est là pour de temps en temps entendre un message, ou vous êtes là pour recharger vos batteries, pour être rempli aussi, être défié même dans votre foi et dire ben, ça je veux changer dans ma vie. Peut-être j'ai échoué jusqu'à présent, mais aujourd'hui je prends la ferme résolution de demander l'aide au Saint-Esprit, de demander l'aide à Jésus qui transforme mon cœur. Je ne sois pas un ronchon de service, mais quelqu'un qui bénit les autres. Bénir, ça veut dire du bien. Aimer, pardonner. Que notre vie soit un reflet de réconciliation, d'unité que Christ a apporté par son sacrifice à la croix. Que Jésus soit notre Seigneur et notre source de réconciliation. Il n'y a pas d'autre source. Ce n'est pas possible. On ne peut pas trouver d'autres moyens. Alors, vivons pas comme des étrangers ou des étrangères, mais comme des concitoyens avec les membres de la famille de Dieu. Et c'est Christ la pierre angulaire. Si Christ est là, on ne peut pas se chamailler, ou on ne devrait pas pouvoir. J'ai de la difficulté à penser que Christ se sente très à l'aise lorsqu'on se disputaille. Il me semble tout à coup, pouf, il y a la pierre angulaire qui se taille, puis tout qui tombe. Alors si on est conscient de notre nouvelle identité en Christ, eh bien, ça doit dépasser aussi certaines divisions, certaines choses. De même, on est appelé à embrasser notre identité en Christ et à vivre dans l'unité malgré nos différences. Pensez à ce voile qui a été déchiré lorsque Jésus est mort. Lorsque Jésus est mort. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui s'est déchiré en deux du haut en bas. C'est un symbole puissant de la fin de l'ancienne alliance entre Dieu et l'humanité et cet accès direct à la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut avoir cet accès direct pour autant qu'on passe par Christ. Aujourd'hui, tu peux avoir cet accès direct à la présence de Dieu. Le chemin est ouvert. La grâce est là. Pour toi, mais aussi pour les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'on va prendre au travers de la Sainte Cène, juste maintenant, d'être là dans ce rappel de la réconciliation, que je suis réconcilié avec Christ. Et que je suis appelé aussi à être réconcilié avec celles et ceux qui m'entourent. À vivre dans ce pardon, dans cette grâce. Désormais, un chemin est ouvert. Mon cœur peut vivre dans une autre réalité. Je peux recevoir cette grâce et je peux dire, Seigneur, à toi le jugement, c'est toi. Seigneur, je ne veux plus me charger de ça. Je ne veux plus me charger de ce péché. Je ne veux plus me charger de cette haine, de cette colère. Je ne veux plus me charger de cette rancœur, de cette amertume. Je ne veux veux te laisser cette amertume. Peut-être des gens vous ont fait violemment souffrir. Ça ne veut pas dire que vous allez être les meilleurs amis du monde. On n'est pas en train de dire que quelqu'un qui a été violé ou, je ne sais pas, torturé va tout à coup partir en vacances. Ça ne veut pas dire ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Le pardon ne dit pas ça. Ça veut juste dire, ben Seigneur, je ne veux plus me charger de ça. Je ne veux plus me charger de cette colère. Je te remets cette personne. Je te remets cette souffrance. Je te remets, Seigneur, toutes les injustices que j'ai vécues. Et Seigneur, je choisis de ne plus avoir de rancœur. Je choisis, Seigneur, de libérer mon âme, mon cœur et aussi cette personne. Seigneur, parce que c'est toi qui juges. Seigneur, comme tu m'as fait grâce, je veux faire grâce. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, Seigneur, tu nous mets face à une autre réalité. Cette réalité, Seigneur, de ton royaume. Cette réalité, Seigneur, qui peut venir que de toi. Seigneur, c'est toi qui nous as réconciliés, c'est toi qui nous as pardonnés. Seigneur, c'est en toi qu'il y a cette puissance de réconciliation, c'est toi qui as déchiré le voile et qui nous permet d'entrer, Seigneur, dans ce lieu très saint. Seigneur, merci de déposer ta grâce sur chacune des vies représentées dans ce lieu de culte ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.